bonjour ou rebonjour, vous êtes sur Graphite 94.9 FM ou Graphite.net. Je suis Stéphane Croza et je suis en studio avec Lucie Verdure, avec Mado de Château-Thierry, avec Eman, Adjij et Rémi Canu. Bonjour à tous les quatre.
Bonjour.
Voilà, donc aujourd'hui, on est sur l'antenne de Graphite pour présenter donc ce matin les résultats de vos travaux ce semestre dans le cadre du cours WE1 questionner le web. Et puis donc, bah, on va avoir deux interventions. Hein. Lucie et Mado, vous allez nous parler des logiciels de police prédictive. Et puis, Eman et Rémi, vous allez vous nous parler des enjeux, des apports de Wikipédia face aux enjeux du web. Alors, bah, ça s'articule bien, hein, c'est pas un hasard, avec l'objectif et les thématiques que l'on aborde donc dans ce cours WE1, comme par exemple eh bien, le capitalisme de surveillance, la société algorithmique, hein, on va y revenir avec la police prédictive. Et puis de l'autre côté, on essaye de voir aussi un petit peu les alternatives, et notamment la culture libre qui sera illustrée par Wikipédia. Mais donc si Lucie et Mado, vous êtes prêtes, eh bien, je vous passe la main pour nous parler logiciel de police prédictive.
Bonjour, nous sommes Lucie Verdure et Mado de Château-Thierry, élèves en 5e et en 2e année à l'UTC, et nous allons aujourd'hui vous vulgariser un article sur les algorithmes prédictifs au sein de la police et le concept de technopolice. Nous allons nous intéresser à un article intitulé « Predictive Policing Software Terrible at Predicting Crimes » publié le 2 octobre 2023 sur le site d'investigation The Markup en collaboration avec le magazine Wired. Ce travail a été rédigé par Aaron Senkin, journaliste spécialisé dans les liens entre la technologie et la discrimination, et Surya Mathew, ingénieur et journaliste d'investigation qui étudie les biais sociaux des algorithmes. L'article analyse l'utilisation de Geolytica, une plateforme de police prédictive adoptée par plusieurs commissariats américains. L'objectif de ce logiciel est de prévoir, à partir de données sur des incidents criminels, les zones et les moments où les crimes seraient le plus susceptibles de se produire. Chaque jour, les programmes collectent les rapports d'incidents, les traitent, puis les envoient à des cartes de prédiction aux services de police. L'idée, en théorie, est de permettre aux autorités d'intervenir en amont et de prévenir certains délits. Cependant, les résultats observés dans l'étude sont particulièrement décevants. Entre le 25 février et le 18 décembre, 23 631 prédictions ont été générées par Geolytica. Or, moins d'une centaine d'entre elles se sont révélées correctes. Ça représente un taux de réussite inférieur à 0,5%. Les prédictions concernant les vols et les cambriolages affichent des taux respectifs de seulement 0,6% et 0,1%.
Au-delà de ces performances extrêmement faibles, l'article souligne un autre problème majeur, une surestimation systématique du nombre de crimes. Dans la ville de Plainfield, qui compte environ 54 000 habitants, le logiciel prévoyait 80 crimes par jour, alors que les données réelles sur la même période indiquaient en moyenne 22 incidents quotidiens. Des policiers interrogés expliquent d'ailleurs qu'ils n'utilisaient tout simplement pas le logiciel, le jugeant inutile dans leur patrouille. Malgré cette inefficacité, le coût du dispositif reste important. Le contrat entre Geolytica et la police locale s'élevait à 20 500 $ pour la première année, puis 15 500 $ pour les années suivantes. Donc face au manque de résultats et au coût élevé de l'abonnement, le département de Plainfield a finalement décidé de cesser d'utiliser le logiciel. Cet article met en évidence plusieurs enjeux essentiels liés à l'utilisation des outils de police prédictive. Il questionne non seulement leur efficacité réelle, mais aussi la pertinence des investissements publics consacrés à cette technologie et les risques associés à des décisions fondées sur des algorithmes peu fiables. Nous reviendrons sur les risques de ces logiciels dans notre troisième partie. Donc on va maintenant vous passer un petit extrait de l'émission Envoyé spécial.
Le capitaine Rick Armendariz est le numéro 2 de la police de Modesto.
Comment ça s'est passé aujourd'hui ?
Super, merci.
C'est lui qui a décidé de se lancer dans la police prédictive il y a 2 ans.
Là, c'est le bureau des analystes.
Son choix s'est porté sur un logiciel créé par une société privée, PredPol, qui lui coûte 30 000 $ par an. Un outil qui dit prédire l'avenir à partir des statistiques de la police.
The, all
On a transmis à PredPol toutes nos données des 10 dernières années en se concentrant sur le type de crime, le lieu du crime et la date et l'heure du crime.
Seuls ces trois types de données sont utilisés.
C'était donc un extrait de l'émission Envoyé spécial qui raconte qu'aux États-Unis, un certain commissariat utilise un autre algorithme de prédiction de crimes. Nous allons maintenant vous parler d'un terme qui revient de plus en plus souvent quand on discute de sécurité, d'algorithme ou d'intelligence artificielle, la technopolice. La surveillance d'État est adoptée très tôt dans l'histoire. On peut dire qu'elle a quasiment toujours existé. Mais ce qui change aujourd'hui, c'est la technologie. Grâce aux ordinateurs, aux caméras, à l'intelligence artificielle, on peut surveiller beaucoup plus vite, beaucoup plus loin et beaucoup plus largement. On récolte d'énormes quantités de données sur les gens. On appelle ça la massification des données. Ce sont toutes les informations que nous produisons, volontairement ou pas, qui sont enregistrées, stockées, puis analysées. Par exemple, lorsque nous utilisons notre téléphone, chaque déplacement est enregistré, que ce soit via notre géolocalisation GPS, par notre Wi-Fi ou bien l'utilisation de nos applications. Le téléphone va donc produire des données en continu, sans action volontaire de notre part. Et c'est là qu'intervient la notion de technopolice. La technopolice, c'est l'utilisation de toutes ces nouvelles technologies par la police pour surveiller la population, ses déplacements, ses comportements et même son environnement. Le but affiché, c'est simple, prévenir la criminalité ou agir plus vite en cas de problème.
Concrètement, ça donne quoi ? Donc ça va des caméras qui détectent automatiquement un comportement anormal ou une incivilité, à des drones utilisés pour surveiller les rues, par exemple pendant le confinement, jusqu'à des logiciels capables de repérer un attroupement suspect en temps réel. L'ensemble de ces dispositifs repose sur la collecte massive d'images et de données qui sont ensuite analysées pour détecter des comportements ou des situations particulières. Mais il y a un assez grand débat derrière cette idée. Selon Félix Tréguet, auteur du livre Technopolis par les éditions Divergence, en octobre 2024, on n'essaie plus vraiment de comprendre les causes des crimes. On ne travaille plus sur ce qui crée réellement les problèmes, par exemple la pauvreté, le manque d'éducation, des tensions sociales, mais on cherche seulement à anticiper les incidents, repérer des signaux faibles et intervenir rapidement. En gros, ça va être un traitement uniquement de surface, mais peu profond. Donc pour résumer un peu ce que Mado et moi avons dit, la technopolice, c'est une manière moderne de surveiller une population grâce aux nouvelles technologies. Ça peut sembler assez rassurant parce qu'on va promettre plus de sécurité, mais on peut aussi y voir un certain risque, celui de confondre surveillance et solution. On ne règle pas les problèmes de fond, on les traque. Et on se met à penser que si quelque chose peut arriver, alors il faut surveiller tout le monde tout le temps, juste au cas où. Donc on va maintenant vous passer à un deuxième petit extrait pour vous introduire notre troisième partie.
Ces propos choquants sont ceux de policiers en service. Ils ont été enregistrés par le journaliste Valentin Gendreau lorsqu'il a infiltré la police pour son livre enquête Flic. Dans ce livre, il raconte le racisme et la violence quasi quotidien de certains policiers du commissariat du 19e arrondissement de Paris. Les enregistrements que vous allez entendre le prouvent. Dans l'extrait qui suit, un policier surnommé Bison, en patrouille avec ses collègues, raconte comment il leur arrive parfois de traiter les citoyens.
Mais du coup, avant, c'était pas comme ça, t'avais pas, t'avais pas autant de chiffres et tout à faire ?
De toute façon, au Zilo, moi j'étais rapidement au Zilo. Nous, on ramenait tellement que de toute façon, au bout d'un moment, on allait dans les parkings ou on demandait aux gens de nous ouvrir les hauts immeubles. Puis on défonçait la gueule des gars.
Et tu ramenais pas
non. Bah non, tu vas là, tu vas pas ramener si tu défonces la gueule des gars. Mais tu vas voir un médecin, tu vas dans le cul.
Donc cet extrait qui provient d'une interview de Mediapart montre bien la violence au sein de la police, et en particulier dans des quartiers les plus défavorisés. Pour refaire un lien avec notre article, ces programmes qui à la base sont censés faire baisser le taux de criminalité peuvent en réalité renforcer les inégalités entre les populations. On l'oublie souvent, mais c'est un fait. Les algorithmes ne sont pas neutres. Ils sont créés par des humains, avec leurs idées, leurs choix, leurs données. Et tout cela se retrouve dans le résultat du programme. L'utilisation de ces outils répond généralement à deux logiques. Soit on cherche à analyser des zones plutôt calmes pour développer les projets de Smart City, soit on se concentre sur des zones considérées comme criminelles. Dans le cas qu'on étudie ici, l'algorithme de l'entreprise Geolitica cible surtout les quartiers les plus pauvres, en particulier ceux où vivent les Latinos et les Noirs. Résultat, l'arrivée répétée de la police dans ces quartiers peut paradoxalement créer des délits et plus d'arrestations et donc accentuer les écarts de criminalité entre les différents secteurs d'une même ville. Un autre problème se pose, les variables utilisées par ces logiciels. Certaines données sociodémographiques sont directement liées à la pauvreté, au chômage ou au niveau d'éducation. Elles sont donc considérées comme discriminatoires. Les scores et les prédictions produits par ces systèmes sont fortement corrélés à des taux de pauvreté élevés. Cela crée une sorte de cercle vicieux. Plus un quartier est pauvre, plus l'algorithme le considère comme dangereux et plus la police y est envoyée.
Et cela va encore plus loin. Quand un grand nombre de patrouilles est envoyé dans une zone parce que l'algorithme l'a décidé, ces patrouilles vont forcément constater plus d'infractions, même des infractions mineures. Elles vont aussi collecter des données sur ces quartiers, données qui seront ensuite intégrées dans le logiciel. Et au final, cela renforce encore l'idée que ce quartier est à risque. C'est ce qu'on appelle une démultiplication de la domination policière. On voit bien ici un problème très sérieux, une confusion entre corrélation et causalité. En clair, ce n'est pas parce qu'un quartier présente certaines caractéristiques sociales qu'il cause forcément plus de criminalité. Mais l'algorithme, lui, va souvent mélanger les deux. D'après l'article de la Quadrature du Net, la police prédictive en France, contre l'opacité et les discriminations, édité en janvier 2024, qui s'est penché sur ces systèmes, c'est exactement le cas du programme PAVED. Il se base sur 15 variables sociodémographiques qui seraient, selon ses créateurs, fortement corrélées avec la criminalité. Mais on ne nous dit pas quelles sont ces variables. On ne nous montre aucune preuve qu'il y a un lien réel de cause à effet. Et c'est la même chose pour Smart Police, le logiciel développé par Edicia. On ne sait même pas quelles données sont utilisées. Tout est flou, opaque et impossible à vérifier. Au final, ces outils qui se présentent comme innovants, objectifs et modernes risquent avant tout de reproduire et d'aggraver les discriminations déjà existantes. Et c'est pour cela qu'ils posent un vrai problème démocratique, social et éthique.
Merci beaucoup, merci à toutes les deux, merci à Lucie et Mado pour donc cette première présentation sur les logiciels de police prédictive. On va changer maintenant assez radicalement de sujet, mais donc c'est un autre des sujets que l'on aborde dans le cadre du cours, à travers notamment la culture libre. Et puis donc, je vais passer la parole à Eman et Rémi pour nous parler de Wikipédia. Eh bien, c'est à vous quand vous voulez.
Bonjour à tous. Aujourd'hui, nous allons vous parler de Wikipédia et de différents aspects que cette encyclopédie englobe en relation avec le concept de contre-culture. En partant d'un article, nous allons vous proposer une lecture de certaines idées présentes dans celui-ci grâce à ce concept. L'article sur lequel nous allons nous baser a été écrit par Olivier Ertscheid le 23 février 2025. Il a été publié sous le titre « World Wide Wikipédia, pourquoi il faut à tout prix défendre Wikipédia » sur le site Framasoft. L'auteur enseigne les sciences de l'information à l'Université de Nantes. Dans ses travaux, il s'intéresse surtout à la manière dont Internet évolue, et dans ce texte, il montre clairement son attachement à des espaces numériques ouverts et accessibles. Cet article est particulièrement engagé, défendant Wikipédia face aux récentes attaques de personnes influentes telles que Elon Musk. Celui-ci a notamment critiqué le site et appelé au boycott de l'encyclopédie. La première idée relevée dans ce texte est le fait que Wikipédia n'est pas achetable, ou du moins très difficilement. Il s'agit d'une force de Wikipédia qui lui permet de rester libre et indépendant, car personne ne peut prétendre posséder l'encyclopédie ou tous ses articles. Selon l'auteur, ce serait une des raisons expliquant pourquoi Elon Musk souhaite boycotter ce site. Il lui résiste. En effet, l'article explique la chose suivante. Aucune prise directe pour une quelconque forme d'OPA hostile n'est actuellement présente. C'est-à-dire qu'une acquisition vers la bourse et sans accord avec le conseil d'administration est impossible, étant donné que Wikipédia est gérée par une fondation. Il s'agit d'une institution d'intérêt général, à but non lucratif, et qui n'est donc pas présente en bourse. Pour mieux comprendre ce dont on va parler par la suite, on va s'intéresser à son mode de fonctionnement. Son système est collaboratif, géré par le conseil d'administration de la fondation, et est financé par des dons. Ce sont les bénévoles qui rédigent les articles disponibles sous licence libre. L'encyclopédie est alors le résultat du travail d'un très grand nombre de collaborateurs. Une autre idée retenue ici est que, selon l'auteur, Wikipédia occupe aujourd'hui une place un peu particulière sur le web. Pour l'auteur, c'est un espace qui devient rare. Il n'est pas contrôlé par une grande entreprise, ne fonctionne pas avec de la publicité, et tout le processus de contribution est visible et discuté. Cette indépendance et cette transparence distinguent Wikipédia. Dans un Internet où beaucoup de plateformes sont fermées ou guidées par des intérêts commerciaux, il s'agit d'un endroit où la collaboration fonctionne encore de manière collective et assez équilibrée. C'est ce qui, selon l'auteur, rend ce projet important à protéger, parce qu'il représente l'un des derniers espaces réellement libres du web. Évidemment, de nos jours, il est possible de trouver diverses autres alternatives libres à un tout tas de logiciels, réseaux sociaux, etc., comme par exemple des médias tels que Mastodon et Peertube, qui représentent également des alternatives libres et décentralisées. Le concept avec lequel on va proposer une analyse de ces idées et la contre-culture, et une brève présentation de ce qui se cache derrière ce terme, est essentiel dans la compréhension de ce qui va suivre.
À présent, voici une présentation du concept de contre-culture. Il est notamment apparu dans les années 1960, popularisé avec les mouvements hippies qui en est un symbole fort. Il désigne une culture qui émerge en se distinguant de la culture dominante. Ce mouvement est partagé par des communautés qui élèvent de nouvelles valeurs et de nouveaux modèles, proposant une alternative à diverses pratiques et normes. Un bon exemple de ce genre de mouvements sociaux est celui des hippies, surtout aux États-Unis et en Europe. À ce moment-là, beaucoup des jeunes refusent les valeurs de leurs parents, la société trop traditionnelle, la consommation à tout prix, la guerre du Vietnam et l'autorité en général. Les contre-cultures se caractérisent par un mouvement de création et de critique du système actuel, soutenu par divers individus et communautés. Ces manifestations sont présentes dans des mouvements collectifs ou encore dans les engagements des artistes. Mais il ne s'agit pas non plus à une opposition radicale avec la culture dominante. Dans son article « Pour une réévaluation du concept de contre-culture » paru en 2012, Andy Bennett disait que les fondements même de l'idéologie contre-culturelle étaient basés sur des produits et des ressources rendues possibles et disponibles par les médias de masse et la consommation de masse des armes notoires du capitalisme tardif. Les contre-cultures s'inscrivent dans le même cadre que la culture dominante. Leur objectif est de présenter de nouvelles perspectives et ouvrir la réflexion et le débat sur les valeurs prônées par la société. Pour reprendre l'exemple des hippies, c'est de là que viennent plusieurs mouvements importants, comme les grandes manifestations étudiantes dans plein de pays. Ils trouvaient l'école et la société trop fermées. Par exemple, en France, en mai 1968, ils bloquaient les universités et protestaient dans la rue, ou encore les actions pour les droits civiques aux États-Unis. Beaucoup de jeunes soutenaient la lutte contre le racisme. Ils faisaient des marches, des actions pacifiques pour que tout le monde ait les mêmes droits. La musique a beaucoup changé aussi à cette époque. Le rock et le folk sont devenus des façons de protester, avec des chansons qui parlent de la guerre du Vietnam, du racisme ou des injustices. Cette contre-culture a eu un vrai impact avec les grandes manifestations étudiantes et les marches pour les droits civiques. Les jeunes ont commencé à revendiquer plus de liberté dans leur vie quotidienne, à critiquer le gouvernement et à demander plus d'égalité. Ces actions ont petit à petit rendu normal le fait de contester les décisions des autorités et de défendre des causes sociales. Beaucoup de choses qui paraissent normales aujourd'hui, comme la liberté d'expression, critiquer les intuitions ou se tenir des mouvements sociaux, viennent en partie de cette période. Cet exemple montre qu'une contre-culture peut vraiment transformer une société simplement en proposant une autre manière de vivre que celle qui était prescrite à l'époque. Cependant, il est important d'avoir en tête que ce concept a été critiqué. Selon Andy Bennett, dans le même article, certains des présupposés dénotant une vision relativement idéaliste et romancée du changement social. Il pourrait relever d'une vision qui ne reflète pas les vrais mouvements sociaux qu'il décrit. Ceci étant plus complexe que la création d'une communauté parallèle drastiquement opposée au modèle économique ou juridique. À présent, nous allons passer un extrait tiré d'une vidéo de Lina publiée sur YouTube en 2019.
Pour défendre leur cause, les hippies investissent alors les plateaux télé. En 1973, dans l'émission Les dossiers de l'écran, ils font face à plusieurs intellectuels, dont l'écrivain René Barjavel.
Des vêtements qui vous déplaisent parce qu'ils sont mis n'importe comment, ça m'est égal. J'ai envie de couleurs, j'ai envie de choses qui me plaisent à moi. J'ai pas envie de suivre une mode, j'ai pas envie de mettre ma cravate.
Mais vous suivez une mode?
Non, je
mais
ne suis
si,
pas une mode.
Mais s'il y a une mode qui en ce moment, et bien dans le monde non. entier, c'est la mode hippie.
Mais non, c'est la mode hippie.
Puisque non seulement elle existe en elle-même, mais elle a influencé les modes dans
mode.
Le monde entier.
Ça n'est pas une mode. Nous avons influencé la mode, mais nous ne sommes pas une mode.
Donc c'est un extrait tiré d'une vidéo de Lina, Dans cet extrait, l'échange nous montre bien la volonté des hippies de se détacher et de faire évoluer la façon de penser dominante. Par la phrase « Nous avons influencé la mode, mais nous ne sommes pas une mode ». Wikipédia peut être vue comme une forme de contre-culture parce qu'elle ne suit pas du tout la logique dominante d'Internet. Aujourd'hui, la plupart des plateformes sont gérées par des entreprises avec de la publicité, des algorithmes et une recherche permanente de profit. Wikipédia, au contraire, fonctionne sans pub, sans vente de données et sans mise en avant commerciale. Rien que ça, c'est déjà une opposition claire au modèle classique. Wikipédia se distingue aussi par sa manière de produire l'information. Sa communauté joue un rôle primordial. Elle est en effet au cœur de toutes les décisions et de la rédaction des articles. Tout est créé, corrigé et amélioré par des bénévoles de façon collective. C'est le pilier qui fait vivre la fondation. Les règles sont publiques, les discussions sont ouvertes et chacun peut participer ou remettre en question un contenu. C'est un modèle où la transparence et la collaboration remplacent la logique hiérarchique et commerciale. Cette façon de travailler ensemble sans actionnaire et sans intérêt privé représente vraiment une alternative au fonctionnement habituel du web.
Ainsi, en considérant Wikipédia comme une contre-culture, on comprend plus facilement les mécanismes derrière sa résilience. Dans l'article étudié, l'auteur dit « Elon Musk pourrait un jour racheter Wikipédia ou la détruire, ce qui revient de toute façon au même ». En effet, la disparition des mouvements bénévoles correspondra aussi à la disparition de Wikipédia tel qu'on le connaît. L'encyclopédie est portée par une volonté collective de produire un contenu libre. De plus, en s'opposant de telle manière au fonctionnement traditionnel des sites commerciaux, Wikipédia est bien moins influencée par des acteurs externes, comme des actionnaires par exemple, et moins exposée à la possibilité d'être achetée. Pour conclure, comme on l'a vu avec l'exemple des hippies, Wikipédia se développe dans le même cadre et contexte que tous les autres sites. Il est présent en ligne et fait partie du paysage numérique, mais il modifie certaines normes dominantes actuelles en montrant qu'un espace libre, non marchand et collaboratif peut encore exister. C'est cette différence, sans rupture totale, qui en fait un bon exemple de contre-culture numérique.
Merci à tous les deux pour cette seconde présentation. Je vous propose une petite pause musicale avec Plugin Baby de Muse et on se retrouve après pour la phase de questions.
We'll be right back.
Eh bien, donc, c'était Muse. On est de retour en studio, donc on est dans le cadre du cours de l'UTCW1 Questionner le web. Je suis donc en studio avec Lucie, Mado, Eman et Rémi. On a parlé logiciel de police prédictive, on a parlé Wikipédia. Et donc, à présent, eh bien, je vais vous reporter à chacune d'abord, chacun ensuite, une des questions de vos collègues qui écoutent l'émission. Donc, Amado et Lucie, concernant la police prédictive, eh bien, en fait, on a une question donc, qui nous est reportée ici par à la fois Axel et Calista. En gros, si on avait, vous nous avez fait une critique de la police prédictive, en quelque sorte, mais si on avait vraiment un super algo génial, avec des super données, une super IA, si c'était mieux régulé, enfin bref, est-ce qu'on pourrait imaginer, en quelque sorte, un monde où on a une police prédictive qui marche parfaitement, et dans ce cas-là, bien, est-ce que ce ne serait pas juste une technique qui va bien ?
Bah, d'un côté, en théorie, dans le meilleur des mondes, oui, parce que ça pourrait limiter des crimes, mais en même temps, c'est un peu faire l'autruche, parce qu'on ne parle pas vraiment des vrais problèmes, parce que ça va limiter la casse et ça va faire un semblant de bon. Sauf que, comme on en a parlé dans notre émission tout à l'heure avec nos extraits, c'est nier au sein de la police des vraies problématiques comme la violence, le racisme et les causes de la criminalité comme la pauvreté, le manque d'éducation et le mauvais cadre de vie. Il faudrait plutôt éviter le problème en améliorant le cadre de vie des gens. Et ça pourrait vraiment aider à baisser le taux de criminalité. En plus, ces algorithmes, ils visent en particulier les communautés les plus précaires, alors que les crimes ont lieu partout. Dans notre article, l'auteur parle aussi, et nous on n'en a pas parlé, mais il parle aussi du fait que les communautés les plus riches ne dénoncent pas les crimes. Alors ça peut, c'est un peu une analyse de psychologie de comptoir, mais ça peut peut-être aussi être parce que c'est des gens qui ont les moyens de limiter la casse et qui peuvent se permettre de pas avoir recours à la justice. En plus, la justice ne fonctionne pas toujours, mais c'est un autre débat. Mais du coup, les algorithmes, ils se nourrissent des données qu'on leur donne. Sauf que si on leur donne qu'un certain type de données, bah, il va reproduire ce schéma et il va dénoncer que ces types de quartiers-là, enfin, il va dire « Ah bah, là, il y en a eu plein, donc il va y en avoir plein encore. » Et c'est un peu le serpent qui se mord la queue, et vu qu'il y a toujours beaucoup de racisme et beaucoup de violence au sein de la police, c'est juste mettre une bombe là où il ne faut pas. Donc voilà.
Et même, vas-y, enchaîne.
Même avec des données qui seront parfaitement non discriminatoires, ce qui est déjà très peu probable, comme Mado l'a expliqué, la police prédictive, elle poserait toujours un petit problème, parce que le cœur du sujet, c'est pas seulement la qualité des données, mais c'est l'objectif de ces outils, anticiper des comportements humains et orienter l'action policière avant que l'infraction ait lieu. Donc on va pas vraiment prédire le crime, on va prédire surtout où la police va regarder et où elle va se rendre. Et ça, même avec des bonnes données, ça reste très fragile scientifiquement et dangereux démocratiquement.
Merci à toutes les deux. Ouais, ça fait un lien aussi avec notre émission précédente hein, sur le technosolutionniste. Quand tu dis qu'on ne retourne pas à la racine des problèmes, hein, effectivement, c'est vraiment une limite en soi de la technique. C'est pas que la technique elle est inutile ou qu'elle change rien, mais au contraire, c'est qu'elle change toujours quelque chose. Elle intervient, mais effectivement, eh bien, elle masque aussi en quelque sorte hein, des problèmes qui sont à l'origine, dont ceux que tu as cités. Et puis, Brian est rentré dans le studio tout à l'heure là pour nous, qu'un des animateurs de la radio pour nous demander si on pouvait pas faire une IA neutre. Bah, en quelque sorte, si je reprends un peu tes propos, une des raisons pour lesquels on ne peut pas, c'est que là, encore une fois, l'outil technique va toujours changer quelque chose au monde, quoi qu'il advienne, et que même si on arrive à réguler un maximum de choses, faire attention à un maximum de choses, eh bien, en quelque sorte, va toujours se poser La question, le problème, que ça va néanmoins avoir un effet, ça va changer nos comportements de savoir qu'on peut utiliser une IA ou de savoir effectivement qu'il y a une police prédictive ou etc. etc. Quelque part, cette remarque va nous faire quand même un lien avec la deuxième intervention. Hein. On a parlé de Wikipédia, donc pour le moment, le lien est ténu. Mais en fait, vos camarades qui nous ont écoutés ont demandé si finalement Wikipédia pourrait pas profiter, si ce ne serait pas une meilleure source d'information, pourrait pas même devenir la meilleure source d'information qui existe, finalement, si tout le monde y contribuait, si la population entière y contribuait. Imaginons que tout le monde ait bien suivi WE1, que toutes les données soient bien sourcées, que tout le monde puisse intervenir, qu'il y ait des modes de communication qui soient très horizontaux, très ouverts, etc. Est-ce qu'on pourrait pas à nouveau, voilà, toujours un petit peu peut-être cet espoir-là, cette volonté d'arriver à quelque chose d'un peu parfait. Voilà, ou encore une fois, on pourrait dire neutre, hein, parce qu'aussi, un des objectifs de Wikipédia, ce serait d'arriver à une certaine forme de neutralité. Je vous laisse réagir à ça, si vous voulez.
Donc, en effet, de nos jours, Wikipédia n'est pas la meilleure, enfin, c'est pas forcément une source d'information idéale. On retrouve beaucoup de biais ou de conflits entre différents collaborateurs qui ne sont pas forcément d'accord sur le même point de vue. Il y a également des campagnes de propagande qui peuvent être amenées par différents politiciens pour amener de la fausse information sur l'encyclopédie. Donc dans un monde idéal où tout le monde contribuerait au site, vu qu'actuellement il y a vraiment très peu de collaborateurs par rapport au nombre de personnes qui profitent de cette information, c'est vrai qu'on pourrait imaginer que ça permettrait d'avoir tous les points de vue de tout le monde qui amène ces informations, ces sources, qui permettrait donc d'avoir un résultat qui serait vraiment le résultat de l'ensemble de la société. Ça n'amènerait pas forcément une neutralité, vu que les gens ne sont pas forcément d'accord, et même si on arrive à se mettre d'accord sur certains points, il y a toujours des divergences, pas forcément des conflits, mais des débats sur divers sujets. Donc, dire que ce serait la meilleure source d'information, je ne sais pas si on peut dire ça, et ça serait vraiment dans un monde idéal, utopique, où ça arriverait. Mais en tout cas, on pourrait forcément avoir de meilleures informations qui seraient bien mieux sourcées et où tout le monde pourrait apporter son esprit critique pour faire avancer le partage d'informations ensemble.
Eh bien, merci à toi. Tu veux ajouter quelque chose, Emmanuel?
Vas-y. Ouais. Juste ajouter, c'est puisque Wikipédia, c'est une source libre, on peut reproduire des plateformes comme Wikipédia où chacun peut modifier ce qu'il veut et mettre l'information s'il veut. Parce que si sur Wikipédia, tout le monde peut modifier n'importe quelle chose, bah, il demandera beaucoup. Parce que chaque information modifiée, on a besoin d'une vérification pour voir si l'information est vraie ou fausse. Donc, ouais, je pense pas que Wikipédia c'est la meilleure plateforme des sources. Donc,
bien, merci à toi. Ouais, tu nous avais dit tout à l'heure, hein, que ce serait peut-être une vision utopique, mais ce serait pour être aussi un peu dystopique, hein, d'imaginer qu'on ait une seule source d'information, ouais, comme ça. Voilà, donc on retrouve, hein, je retiens là de ce que vous avez dit. Et du coup, c'est peut-être aussi une autre réponse, Brian, si tu nous écoutes toujours, à apporter à ta question de est-ce qu'on pourrait avoir une IA neutre, une sorte d'IA parfaite ou idéale, ou voilà. Tout comme d'ailleurs, on pourrait chercher un logiciel de police prédictif parfait ou un Wikipédia parfait. Bah, vous nous avez répondu qu'en fait, justement, c'était probablement pas souhaitable, parce que finalement, ce qui nous intéresse, c'est d'avoir de la diversité. Alors, vous avez eu le cours la semaine dernière, je crois, sur la redécentralisation, sur le fait d'avoir plusieurs centres différents de pouvoir technique, notamment sur le web, qui puissent délivrer des sites web ou animer des médias sociaux, ou encore une fois, animer des plateformes comme Wikipédia. Donc, la diversité, c'est une première clé. Et puis, la deuxième, vous en avez parlé aussi, c'est l'horizontalité, le fait de pouvoir en discuter, en quelque sorte, d'avoir une sorte de démocratie qui puisse également s'installer sur dans les domaines technique, quoi. Voilà, bah, c'était quelques piges. J'ai reformulé un peu complété ce que vous avez dit. Je ne sais pas si vous voulez ajouter un dernier mot. Sinon, on se quitte là-dessus, on rend l'antenne. Non ? Bah écoutez, merci à tous les quatre. Donc c'était, on était là pour le présenter les projets réalisés dans le cadre du cours Questionner le web de l'Université de Technologie de Compiègne. J'étais en studio avec Lucie Mado, Eman et Rémi. Et on va se retrouver dans quelques instants eh bien, avec Lilou Barthélémy, Artus et Dolène. Et on va parler extractivisme attentionnel, médias sociaux, Chrome et collecte de données. Bonne fin de journée à vous. Au revoir.
Merci. Au revoir.